Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Du rouge et du bleu à la une ce matin pour savoir quel État vote républicain ou démocrate aux États-Unis, pour savoir qui occupera la Maison-Blanche pour 4 ans. Joe Biden avait des étoiles dans les yeux quand il a pris la parole il y a un peu moins d'un quart d'heure. Mais son avance dans les sondages est enrayée par Donald Trump. Il remporte l'Ohio et pourrait gagner la Floride et le Texas. Analyse de ses résultats serrés dans ce journal. Nous serons à Washington dans un instant.
Et nous irons aussi dans l'Arizona, l'un des états clés de cette élection. L'Arizona bascule dans le camp démocrate, vous l'entendrez.
À la une encore, la situation sur le front du Covid-19 empire en France. 430 morts en 24 heures, de nouvelles restrictions sanitaires et économiques dans les grandes surfaces. Impossible désormais d'acheter des produits dits non essentiels. Mais que vont devenir les 50 000 employés dans les rayons de vêtements ou de jouets, par exemple? Chômage technique ou reconversion? Focus dans ce journal sur les conséquences sociales de cette mesure.
Et puis, dans une dizaine de minutes, on revient sur cette crise politique à l'étranger, mais c'est en Côte d'Ivoire. Quelles issues possibles? Je poserai la question à Richard Banegas, il est professeur de sciences politiques à Sciences Po Paris.
Il n'y a pas que du rouge et du bleu à la une ce matin aux États-Unis. Un chiffre également à retenir, 270. C'est le nombre de grands électeurs nécessaires pour gagner la présidentielle. Pour l'instant, le démocrate Joe Biden en compte 213, 174 pour le républicain Donald Trump, selon les estimations du New York Times. Bonjour Jean-Marc Four.
Bonjour à tous.
Il est 1h du matin chez vous à Washington, mais l'heure est surtout à l'incertitude tant les résultats sont serrés.
Ah oui, les deux hommes sont pour l'instant au coude à coude. Il n'est pas du tout acquis que l'on ait un résultat définitif ce matin. Il y a une seule certitude, c'est que la vague bleue espérée par les démocrates n'est pas au rendez-vous. Les instituts de sondage se sont à nouveau trompés. Donald Trump fait mieux que résister. Le président l'emporte en Floride et dans l'Ohio, deux états essentiels pour s'imposer. Et son parti devrait également conserver le Texas. Il a donc réussi à remobiliser son électorat. Il peut, à cette heure, encore espérer empiler pour 4 ans à la Maison-Blanche. Donald Trump fait beaucoup mieux que de se défendre. Alors son parti sera à nouveau battu à la Chambre des représentants, il va à nouveau perdre probablement le vote populaire, le total des votes au niveau national, mais il peut emporter le scrutin quand même en s'imposant dans les états clés, puisque c'est, vous le savez, c'est la particularité de ce scrutin indirect.
Et Donald Trump qui vient d'indiquer sur Twitter qu'il prendrait la parole ce soir, mais il annonce déjà une large victoire, a big win. Il faut attendre le dépouillement, avait précédemment dit Joe Biden.
Je suis venu pour vous dire ce soir que nous sommes bien partis pour remporter cette élection. Nous sommes confiants, nous sommes dans une bonne position, c'est certain. Cela va prendre du temps pour compter les votes, mais nous allons remporter la Pennsylvanie. Ce n'est pas à moi ou à Donald Trump de dire qui a remporté cette élection, c'est au peuple américain de le dire.
Joe Biden, le candidat démocrate qui a donc pris la parole il y a à peu près un quart d'heure maintenant, surprenant d'ailleurs tout le monde puisqu'on n'a pas l'habitude qu'un candidat prenne la parole avant l'annonce officielle des résultats. Jean-Marc Four, je me retourne de nouveau vers vous. Sur quoi le candidat démocrate fonde-t-il son optimisme?
Ben, vous venez de l'entendre, il dit pas de précipitation, attendons que tous les votes soient décomptés. C'est vrai d'ailleurs que vous avez raison de le souligner, il s'exprime de façon très rapide, hein, comme s'il voulait empêcher Trump de se déclarer vainqueur, comme s'il voulait lui couper l'herbe sous le pied. Alors, Joe Biden ne parvient pas pour l'instant à faire basculer des États républicains, hormis peut-être l'Arizona, mais il mise sur la Géorgie où le dépouillement se poursuit, et surtout sur trois États déterminants, la Pennsylvanie, vous venez de l'entendre, le Michigan et le Wisconsin. Pour l'emporter, Joe Biden doit s'imposer dans deux d'entre eux. En fait, les résultats bougent beaucoup d'une minute à l'autre et dans certains de ces États, les votes effectués par anticipation, majoritairement favorables à Biden, n'ont pas encore été dépouillés. Donc ça pourrait durer encore plusieurs heures avant que l'on ait un résultat clair. On se résume, suspense total.
Jean-Marc Four, merci pour ces analyses, pour ces débuts donc de résultats. On y reviendra également dans le reportage de la rédaction à 7h25 avec nos envoyés spéciaux Maxime Tellier et Rosalie Lafarge, envoyés spéciaux donc de France Culture. Direction l'Arizona à présent, cet État républicain n'avait voté démocrate qu'une seule fois depuis 1952. C'était pour Bill Clinton en 1996, mais là, Joe Biden semble donc remporter la mise. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30 avec notre envoyé spécial de France Culture à Phoenix, la capitale de l'Arizona, où Joe Biden semble donc avoir confirmé l'infime avance qu'il avait dans les sondages.
7h05 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Une autre élection présidentielle à présent, le scrutin en Côte d'Ivoire tourne à l'affrontement.
Après la réélection d'Alassane Ouattara pour un troisième mandat controversé sur un score de 94% des voix, après des mois de violence qui ont causé la mort d'une quarantaine de personnes, les tensions restent vives. Les leaders de l'opposition qui voulaient former un gouvernement de transition sont bloqués chez eux par les forces de l'ordre. Le gouvernement les accuse de complot. La correspondance à Abidjan d'Amandine Réau.
Hier après-midi, l'opposition avait réuni la presse au domicile d'Henri Conan Bédier, le chef de file de l'opposition. Mais avant le début de la conférence, des policiers et des gendarmes ont tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les journalistes et les militants. Le domicile de l'opposant a été encerclé. Une vingtaine de militants et cadres du parti extraits de la résidence. Certains ont été conduits à la préfecture, d'autres simplement ramenés chez eux. Deux autres opposants sont actuellement en résidence surveillée. Le candidat Pascal Afingessan, lui, aurait pris la fuite. Le gouvernement accuse l'opposition de complot contre l'autorité de l'État. La justice a été saisie. Le garde des Sceaux n'exclut pas d'arrêter les leaders de l'opposition. Réponse du camp Bédier, il s'agit d'une tentative d'intimidation. Nous invitons le régime antidémocratique à s'abstenir de s'imposer par la force. Fin de citation. Le scrutin de samedi a été entaché de violence. Près d'un quart des bureaux de vote sont restés fermés et au moins 9 personnes sont mortes, ce qui porte à une quarantaine le nombre de décès depuis l'annonce de candidature d'Alassane Ouattara à un troisième mandat. Désormais, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine et l'ONU appellent toutes les parties à privilégier le dialogue pour trouver un dénouement pacifique à la crise actuelle.
Amandine Réau à Abidjan pour France Culture. En Autriche, les enquêteurs tentent encore de retracer le parcours de l'homme de 20 ans qui a tué 4 personnes lundi soir à Vienne et fait une vingtaine de blessés avant d'être lui-même abattu par la police. Originaire de Macédoine du Nord, mais avec la nationalité autrichienne, il a été qualifié de soldat du califat par le groupe État islamique. Il avait déjà été condamné à de la prison l'an dernier pour avoir tenté de rejoindre la Syrie, mais il avait été libéré de manière anticipée, réussissant à tromper le programme de déradicalisation. C'est ce qu'a reconnu hier le ministre de l'Intérieur autrichien. Une quinzaine de personnes dans son entourage ont été arrêtées en Autriche et en Suisse.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Un point sur la situation sanitaire en France. 430 morts du Covid en 24 heures.
Et des services de réanimation qui voient affluer les patients dans un état grave. 469 nouvelles admissions en une journée. Plus de 36 000 nouvelles contaminations. Peut-être 100 000 cas par jour à la fin de la semaine. C'est la crainte de l'épidémiologiste Antoine Flahaut. L'état d'urgence sanitaire d'ailleurs ne sera prorogé que jusqu'au 14 décembre prochain. C'est une victoire des oppositions à l'Assemblée nationale contre l'avis du gouvernement. Les députés LREM n'étaient pas suffisamment nombreux en séance hier soir pour le prolonger jusqu'à mi-février. Colère du ministre de la Santé Olivier Véran, vous l'entendrez dans le journal de 7h30. Elles ont encore toute la journée pour se mettre en règle à coups d'adhésifs, de panneaux masquants, voire de retraits de rayons. Les grandes surfaces devront arrêter de vendre les produits dits non essentiels pour respecter la demande du gouvernement, l'équité avec les commerces indépendants qui ont dû, eux, fermer leurs portes. Fini donc les achats de livres, de vêtements, de meubles, de jouets, de fleurs en grande surface. Au grand dam des acteurs du secteur, ils dénoncent de lourdes conséquences sociales à leur choix.
Que vont devenir les dizaines de milliers de salariés de la distribution qui étaient affectés au rayon non alimentaire? Les chiffres varient, mais on estime qu'ils sont un peu plus de 50 000 qui vont à leur tour peut-être connaître le chômage partiel ou bien devoir effectuer une reconversion express. Mais ce personnel, s'il est très souvent adaptable, n'est pas totalement interchangeable, notamment les personnes travaillant dans les entrepôts dédiés au non alimentaire, condamnés au chômage technique, au champ par exemple, estiment que 6 à 10 000 de ces salariés pourraient y basculer. Une fois n'est pas coutume, syndicats de la grande distribution comme dirigeants du secteur appellent depuis ce week-end d'une même voix à ne pas fermer de rayons en grande surface pour sauver les emplois, selon la FGTA, Force ouvrière, pour éviter une concurrence déloyale des plateformes type Amazon, selon la FCD, la Fédération patronale du commerce et de la distribution. Les rayons concernés représentent des chiffres d'affaires différents selon les enseignes. Dans un hypermarché, c'est en moyenne 25% du chiffre d'affaires, c'est moins dans les magasins plus petits, mais dans des enseignes très urbaines comme Monoprix, c'est beaucoup plus. Enfin, ces enseignes, en prévision de Noël, avaient déjà constitué leur stock de jouets, notamment, qu'il faudra bien écouler plus tard, à prix sans doute cassé et au détriment des petits commerçants de jouets spécialisés.
Autre conséquence du reconfinement, à partir d'aujourd'hui, la SNCF réduit drastiquement son offre. Seul un quart de ses trains rouleront, une situation qui va encore plonger dans le rouge les comptes de l'entreprise ferroviaire qui a déjà cumulé depuis le début de l'année 4 milliards d'euros de pertes liées aux grèves et à la crise sanitaire. Des pertes qui l'ont déjà obligé à réduire ses coûts. La SNCF risque donc dans les prochains mois de solliciter une fois de plus l'aide de l'État et de réduire ensuite ses investissements, notamment ceux liés aux infrastructures déjà vieillissantes. Écoutez l'analyse de Marc Ivaldi, économiste des transports et professeur à la Toulouse School of Economics.
Il y avait eu un déficit énorme d'investissement dans le réseau et même aussi dans le matériel roulant. Et il y a eu un effort considérable, il y a une prise de conscience importante qui a été réalisée sur l'état de vétusté de notre réseau et sur la nécessité de le remettre à bon niveau et de développer les services de transport ferroviaire. C'était une bonne chose. Il faut absolument que les investissements, et en particulier les plans d'urgence et les plans de sauvegarde, fassent tout pour que les investissements soient maintenus, de façon à ce qu'à la sortie de la crise sanitaire, eh bien, le transport ferroviaire soit en pleine forme pour prendre des parts de marché et pour assurer un très très bon niveau de service public.
Marc Ivaldi, économiste des transports, il répondait à Kim Kasmi. Le temps de ce mercredi 4 avril ensoleillé dans le nord-ouest du pays, plus couvert ailleurs. Les températures sont plus fraîches qu'hier, comptées de 0 à 4 degrés sur la moitié nord du pays et dans le massif central, 3 à 12 ce matin plus au sud. Au meilleur de la journée, il fera entre 9 et 13 degrés sur la plupart des régions, 15 à 20 près de la Méditerranée.